Idéalement, quand nous avions une discussion en famille, entre amis, il n'était pas possible de ne pas parler de la pandémie. On ne savait pratiquement rien de ce virus. Alors, évidemment, les avis divergeaient et on se constatait qui pouvait surgir dans les familles ou dans les relations diverses. Aujourd'hui, on connaît le même phénomène avec la vaccination. On doute, on hésite, on ne sent pas grand-chose, évidemment, parce que nous n'avons pas de recul. Mais on peut dire quand même que les scientifiques ont fait un travail unique, parce que la solidarité, les données, voilà, c'est fait dans le monde entier. Et en repensant à ça, finalement, je me suis dit que les êtres humains ont tellement besoin de se raconter, de débattre, surtout les Français, de peser le pour et le contre, de mettre en doute des données qui nous sont présentées, d'argumenter. Je pense finalement qu'on a la chance d'avoir des écrits, que les écrits qui nous viennent de si loin soient aussi sobres. Parce que quand on lit les évangiles et qu'on les compare avec des textes qui sont écrits avant ou après, on peut les appeler des intertestamentaires, des apocryphes, on se rend compte que l'unité était rare. Notre religion chrétienne n'a pas pour origine des dogmes une morale, mais un événement, la venue d'un homme unique, envoyé par Dieu, Jésus-Christ. Et la sobriété des évangiles décrit le phénomène de la résurrection dans les termes de très fort actuels. Il y a eu quelque chose d'indiscutable qu'on ne peut pas prouver avec des discours ou des arguments. Finalement, c'est comme l'aveugle qui écrit dans l'évangile de Jean qui dit « Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et je vois. » Les évangiles s'en tiennent au fait observable que tout le monde et Jésus a été revu vivant après sa mort. Les disciples sont les témoins et sont appelés dans les fins des évangiles à relayer, à transmettre ce témoignage. Et en fait, être témoin, c'est parler à partir de ce qu'on a vu, entendu, ressenti. Ce n'est pas en faire une règle pour tout le monde. C'est assumer la singularité de chaque témoignage. Et en fait, les auteurs de quatre évangiles sont finalement quatre témoins avec leur histoire différente. Aucun ne cherche à harmoniser ce qui s'est passé à la résurrection. Par exemple, si vous relisez la fin de l'évangile de Matthieu, eh bien, Jésus se laisse saisir les pieds par une femme qui se prosternait, mais pas dans Jean. Dans Jean, eh bien, Jésus demande à Marie-Madeleine de surtout ne pas le toucher. Et dans Luc, vous avez entendu, eh bien, Jésus est vivant, dans Jean aussi. Il apparaît dans une pièce malgré les murs fermés. Il demande à manger et on lui donne un poisson cuit. Des questions s'élèvent pour savoir si c'est un pur esprit, un fantôme, comme le dit la traduction. Le mystère, finalement, de sa présence corporelle n'est absolument pas élucidé. Jésus qui mange se retrouve aussi dans Jean, mais pas dans les autres. Mais du coup, les sens sont sollicités. Les disciples regardent, et aussi, entre la joie, l'incrédulité, on a même entendu qu'ils avaient peur. Et après, eh bien, Jésus prend le temps, il rappelle que c'était annoncé dans les Écritures, et du coup, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Un écrit peut se raccrocher à l'écrit. Au texte de l'Ancien Testament, ils peuvent relier l'événement Jésus, justement, la venue de cet homme, mort et ressuscité, à l'histoire du peuple d'Israël, et avec évidemment le Dieu unique ici, le même Dieu, qui a envoyé Jésus et qui l'a ressuscité. Comme pour les commencements de l'Évangile, chacun s'adresse à une communauté particulière, avec une théologie spécifique. Et presque tous terminent avec un envoi des disciples et des instructions. C'est un envoi dans le monde. On connaît bien la finale de Matthieu parce qu'elle nous sert à tous les baptêmes. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Dans la deuxième finale de mars, parce qu'on a vu la semaine dernière, c'était une première finale de mars, dans la deuxième finale, on trouve des éléments de Matthieu. Proclamer l'évangile à toute la création. Et on perçoit aussi un rapprochement de Marc avec l'apôtre Paul. Il a une fille. C'est parti que les disciples vont prendre dans la main du serpent. Et cette histoire, on la retrouve dans les actes avec l'apôtre Paul qui va impressionner les habitants de l'île de Val en chutant un serpent. Et du coup, voilà, chaque auteur d'évangile écrit en lien avec ce qu'ils connaissent des premières expériences. Et ce genre, bien entendu, aux disciples des femmes essentielles, ils parlent à la simplement à eux en leur disant qu'ils ont le pouvoir de remettre les péchés ou non. Et ils précisent que ce livre a été écrit pour que nous croyions et que nous ayons la vie au nom de Jésus. Et puis la finale de Luc. Eh bien, Luc, il faut savoir que c'est le même auteur qu'on retrouve dans les actes. Et Luc fait une suite à cette exhortation avec l'ascension et la Pentecôte que nous avons fait trouver. Donc, la Pentecôte, le temps de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et là, dans notre finale, nous entendons le Christ souffrira, il ressuscitera dans le troisième jour et on prêchera. Entre la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. Vu que l'on a la conversion avec le fait de se tourner vers Jésus, qui est mort, qui revient à la vie, et c'est recevoir le pardon des péchés. En tout cas, je me suis dit qu'il fallait, en donnant finalement toutes les instructions à celle-ci, il fallait une sacrée confiance. Que le message puisse se transmettre. Malgré les siècles, l'évolution des sociétés, malgré les déformations, les manipulations de l'évangile, et je pense aux tentatives de justification de l'esclavage, par exemple, par les évangiles, malgré les actes et les crimes commis au nom de Dieu et du Christ. Et je pense aussi aux croisades, malgré les prises de pouvoir dans l'Église en tout temps. Malgré tout cela, chaque génération, depuis 2000 ans, reçoit la confiance de Dieu qui nous dit « Vous êtes mes témoins ». C'est pourquoi il ne faut pas imaginer que c'est grâce à la seule compétence de l'être humain, à ses propres forces que l'Évangile est proclamé ici. Cela a été possible grâce à ce que Luc appelle la puissance donnée en haut. Grâce à cette puissance donnée en haut, et cette puissance, bien, on va l'appeler le Saint-Esprit. Oui, c'est grâce à cette puissance de l'Esprit de Dieu que l'Église peut continuer à exister, à évoluer. Une Église vivante comme est vivant le Christ. Alors, nous avons la chance d'appartenir à une Église qui se donne la liberté de réfléchir à son structure. Et je voudrais partager avec vous la nouvelle dynamique synodale de notre Église. En fait, la dynamique synodale, c'est en fonctionnant avec des assemblées. Et je trouve que cette dynamique et cette thématique tombe plutôt bien avec tout ce que nous avons vécu dans l'année qui vient de se passer avec cette pandémie. Il va être question de réfléchir sur 3 ans à la dynamique de la mission de notre Église. Et une question un petit peu provocante au départ, à quoi sert l'Église? C'est une question qui peut se poser, à quoi sert l'Église? Et quelle est sa mission dans le monde? Et puis d'autres questions suivront. Quels ministères sont nécessaires? Que peut-il changer, réinventer pour être une présence pertinente et bénissante dans la société qui nous entoure? Et les questions se posent au niveau au niveau du conseil presbytéral et au niveau de chaque membre de l'Église. Vaste programme qui peut nous mettre en route dès aujourd'hui dans notre vie quotidienne avant de trouver des temps pour y réfléchir ensemble. L'envoi fait aux premiers disciples se transmet à tous les baptisés. Nous aussi sommes appelés à être des témoins, nous sommes appelés à dire que Jésus est vivant et ce qu'il m'apporte. Non pas avec des commentaires, avec des argumentations, mais simplement en témoignant de cela, par mes actes, par mes paroles. Alors, c'est difficile, oui, ça n'est pas facile, c'est pas confortable. Et on va vous poser la question, comment faire? Quand je suis justement au cœur du monde, les yeux fixés bien, sur ma vie de tous les jours, quand je suis préoccupée par mon travail, par mes relations. Et si Dieu a trouvé bon de nous rencontrer par un être humain, eh bien, c'est que nous avons aussi beaucoup à apprendre sur nous-mêmes et sur les autres. Et quand je suis en lien avec les autres, que ce soit dans une réunion ou dans des échanges, je peux apprendre, je peux être aussi dans l'observation de ce qui se passe, sans être tout de suite dans la réactivité. Combien de fois ai-je pu constater qu'une des caractéristiques les plus partagées dans l'humanité, c'est la lâcheté. Et je me mets dedans, bien sûr. Mais bien souvent de notre paresse. Paresse et peur de se confronter à l'autre. Peur d'aller à contre-courant, d'être une voix dissonante qui prend le risque de se conjuguer de l'autre. Parce que dans un monde, il n'est pas facile de rester en vertu. C'est-à-dire, ancré en Dieu et dans l'attention à l'autre, dans l'écoute de l'autre. L'année dernière, deux personnes qui font partie du groupe des cadres et dirigeants chrétiens sont venues nous présenter leurs réflexions, leur travail. Ils se posent des questions au sein de l'entreprise, ces questions-là, justement. Comment prendre en compte l'être humain, là où souvent on préfère se propre intérêt, sans pénaliser celui de la société. Derrière quoi se cache-t-on? Quand on ne veut pas prendre en compte la vie de l'autre, évidemment, c'est une question qui déborde largement le cadre du travail. Quelle conscience avons-nous du mal que nous pouvons faire? Par exemple, et là je vais citer un exemple précis avec les nouveaux outils numériques. Peut-être que c'est parce que cela me choque particulièrement. C'est vrai que dans d'autres lieux, j'ai vécu le début des mails. Alors ça fait encore arriver aujourd'hui, mais je trouve qu'on est un peu plus attentif. Mais le nombre de fois où on sent qu'il y a une tension qui est là, et puis on a des ping-pong, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et combien de fois j'ai simplement pris mon téléphone pour essayer de résoudre avant ça que la source est originaire. Le téléphone, c'est parfois un outil, autant que ça ne peut plus se servir. Combien je suis glacée d'entendre qu'aujourd'hui, une rupture amoureuse se fait par SMS ou par un réseau social, ce qui donne un résultat extrêmement violent. Alors j'imagine que quand on n'avait pas les outils, c'était violent, la violence aussi, sûrement. En tout cas, pour moi, ça met en évidence qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'explication. Et on disparaît simplement dans la lâcheté. Alors cette pandémie ne va pas freiner la peur de la relation à l'autre. À moins que nous en ayons perçu la sable de l'importance et que nous voulions justement en prendre le chemin. Mettre de la souplesse dans les relations, en osant s'adresser simplement à la parole, en osant dire la vérité, en osant être soi-même. N'est-ce pas cela, se convertir? Quel danger y a-t-il? Ai-je peur d'être exclu en étant moi-même? Jésus nous donne sa force et sa présence. Nous pouvons avoir confiance en nous-mêmes et compter avec lui et sur lui. Et pour finir, eh bien, je vous propose de nous appuyer sur les derniers mots de l'évangile de Matthieu et de notre Jésus, qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. »